Dans cette série de podcasts inédits et tirés de la première biographie du maestro, intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, parue aux éditions Marie-Bé et signée Philippe Grégoire, nous proposons une suite de focus, par périodes successives, sur la vie et l'œuvre de Morricone. Ce premier podcast, intitulé « Un jeune Romain », traite de l'enfance romaine du compositeur de 1928 à 1938. Ennio Morricone naquit le 10 novembre 1928 dans le quartier de Trastevere, situé au centre sud-ouest de Rome, un quartier modeste, à l'écart du centre antique. Son père, Mario Morricone, provenait de la ville d'Arpino, situé dans le sud-est de Rome et à égale distance de Rome et Naples. Il exerçait la profession de musicien avec pour seul instrument de prédilection la trompette. Il s'essayait dans le domaine du jazz, touchant par ailleurs à l'opéra et même à la musique de film. Il gagnait sa vie en jouant dans des nightclubs, c'est dire si, d'une année à l'autre, les revenus de ménage demeuraient modestes. La situation matérielle de la famille empira avec l'arrivée de la guerre et des nombreuses restrictions qu'elle engendra. Sa mère, Libera, originaire de Sicile, venait d'une famille d'anarchistes, les Rodolfi. Ceci expliquait son prénom et celui de sa sœur, Idea. Elle restait pour l'essentiel de son temps au foyer, à s'occuper des 5 enfants en bas âge, les 3 sœurs d'Ennio, Adriana, Maria et Franca, et de son plus jeune frère, Aldo. L'appartement familial, situé Villa delle Frate di Trastevere, offrait un espace suffisant pour la famille avec, en prime, un balcon surplombant la rue pavée assez étroite et ses immeubles majoritairement de 3 étages. Bien plus tard, et pour mieux boucler les fins de mois, elle ouvrit un magasin de tissus. Dès qu'il en nul âge et comme ses sœurs qui l'avaient précédé, le jeune Ennio fréquenta l'école salésienne, non loin de la Via delle Frate di Trastevere. L'enseignement général et catholique était dispensé pour l'essentiel par des religieuses. Le soir, après les devoirs, il jouait avec la bande du quartier dans les venelles adjacentes à l'appartement familial. C'était un bon camarade, bien qu'il n'eût pas les qualités d'un chef de bande, trop timide et réservé pour cela, plutôt celle du confident, car déjà, il savait écouter et observer sans se disperser. Discipliné et obéissant, il répondait tout de suite aux appels de sa mère ou de ses sœurs pour venir dîner. Le père prenait ses repas avec sa famille avant de repartir jouer de la trompette tous les soirs dans un orchestre de nightclub. C'était toujours de bonne grâce qu'il allait se coucher sans trop rechigner, d'autant que si sa mère pouvait parfois oublier l'heure de gagner la chambre, ses 3 sœurs savaient le lui rappeler et veiller à ce qu'il s'endorme. Ennio Morricone manifesta très tôt un tempérament pour la solitude et la concentration. Il montrait en particulier un goût très vif pour l'apprentissage assidu de la musique. Son père détecta en lui un musicien en herbe, doublé d'un compositeur très précoce. Dès que son emploi du temps le lui permettait, surtout les après-midi en fin de semaine, il lui apprit les rudiments de la trompette ainsi que les tonalités du violon. Il alla même jusqu'à lui enseigner le déchiffrage des partitions. Plus tard, déclara Morricone, j'ai été séduit par le Fratschutz 4 de Weber et par son ouverture. Ce sont peut-être ces airs qui m'amenèrent au western, à ce bonheur de composer pour le grand air, la nature. Peut-être le western vient-il de ces airs de chasse. Quand les autres enfants se contentaient d'apprendre à lire et à écrire, la partition devint pour le jeune Ennio un élément naturel, attisant sa curiosité insatiable, une page à décrypter et à redécouvrir ainsi qu'un champ de création possible. La famille passait d'agréables vacances d'été à Riccione, Et Mario enseignait à son fils la clé de sol. C'est bizarre, mais j'ai composé à l'âge de 6 ans. Une composition en deux parties, j'avais reproduit des airs de chasse, comme j'en entendais sur des disques ou à la radio. C'était pendant la période des vacances. Et ce que je créais, c'était d'énormes âneries que j'ai déchirées par la suite. Le fait initial de s'essayer dans un art, de faire sinon une expérience, du moins une tentative, même sans succès, relevait pour Ennio Morricone de l'évidence et de la nécessité afin de parvenir à la maîtrise voulue. Et dans son cas, on comprend qu'il a très vite éprouvé cette vérité. La partition allait d'ailleurs devenir à ses yeux un élément essentiel, le support de sa création, de son art. À un point tel que, devenu adulte et jeune compositeur, il refusait de s'en séparer, même pendant les vacances. Il commençait d'emblée à placer toutes les partitions dans sa valise et s'inquiétait seulement ensuite des affaires de voyage. Les partitions non achevées restaient primordiales. En cas de perte ou de destruction, le maestro n'aurait su jurer être en capacité de les restituer dans leur intégralité. Il en aurait conçu un immense chagrin. La musique qu'il écrivait reflétait en tout point son univers mental le plus intime, mais ne formait que des fragments d'un processus créatif entamé dès sa plus tendre enfance. Les fins de semaine, son père, Mario, initia son fils Ennio au jeu d'échecs qui allait devenir pour lui une véritable passion. Ennio formera à son tour son fils Andrea, qui déclarera: Mon père m'a appris à jouer aux échecs quand j'étais petit. Comme cela se passe dans la musique, le joueur d'échecs élabore ses combinaisons et réussit à orchestrer le jeu comme un compositeur. Parvenir à un niveau supérieur aux échecs demande de la patience et une grande faculté de mémorisation. Qualités fondamentales qui lui ont été très utiles pour ses activités de création musicale. Malgré le fait de l'avoir initié à ce jeu, son père Mario ne l'encouragea pas à persévérer. Il fut même très contrarié d'apprendre qu'Ennio organisait des tournois avec deux voisins de l'immeuble. Et constatant qu'il négligeait de plus en plus ses études musicales pour s'adonner à sa nouvelle passion, sans ambages, il admonesta à son fils: Toi, tu vas arrêter ça tout de suite. Et le fiston dut obéir sans broncher et sans toutefois laisser tomber complètement le jeu d'échecs. Il ne s'en départit jamais, y compris dans sa version digitale, apparu sur les ordinateurs qui lui offraient quelques pauses dans une journée dédiée au travail. Les 64 cases de l'échiquier et les 12 degrés de l'échelle chromatique offraient autant d'opportunités au jeune Morricone de s'évader un peu. Dans cette Italie d'entre les deux guerres, le régime fasciste de Benito Mussolini s'était installé. Il avait d'abord feint de respecter les règles démocratiques, puis il avait très vite montré son vrai visage et imposé sa dictature dès 1925. Il allait mettre 10 ans à emboîter le pas à l'Allemagne hitlérienne au point d'en devenir l'un des factotums. La famille Morricone se tint à l'écart des débats politiques. Aussi ne fut-elle pas concernée par les purges brutales visant les communistes. Pas plus qu'à la fin de la guerre, elle n'eut le moindre problème avec les autorités militaires des Alliés à la recherche méthodique des collaborateurs du régime déchu. Il s'agit en l'occurrence d'une attitude qu'Ennio Morricone allait perpétuer, sinon un autre trait de caractère, la réserve qui convenait si bien à sa timidité et à son élégante discrétion. Les week-ends d'été, la famille Morricone prenait régulièrement l'air sur la terrasse de l'appartement autour d'une limonade faite maison quand les étalages des marchés environnants présentaient des citrons en provenance directe des côtes amalfitaines ou encore de la presqu'île sicilienne. Lors de l'une de ces soirées étouffantes, la mère et ses cinq enfants s'éventaient, comme à leur habitude, sans trop prêter attention au jeune Aldo. Celui-ci jeta son dévolu sur des cerises tombées d'un arbre surplombant. Il les consommait en tachant son tricot de corps. Le soir même, il tomba malade, se plaignant de sévères maux d'estomac. On appela aussitôt le médecin. Celui-ci ne put se rendre au domicile des Morricone. Il soignait également les enfants du Dulce. Il envoya à sa place son assistant qui diagnostiqua de simples maux de ventre sans gravité. Aldo continuait cependant à se plaindre les jours suivants et son état empirait. Pendant un moment, la famille crut qu'il avait la grippe. Et lorsque le médecin de famille se rendit enfin au domicile des Morricone, Aldo venait de mourir dans la douleur et presque émacié d'une hémorragie interne provoquée par une gastro-entérite aiguë. Ennio Morricone venait de fêter ses 10 ans. Il se rappellera longtemps de sa mère en sanglots, tenant son jeune frère dans ses bras. Il ne se passait pas un jour sans y penser. Ce triste épisode très marquant n'ébranla cependant pas sa foi en Jésus-Christ. Il reçut une éducation catholique très soutenue. Enfant, il récitait tous les soirs le rosaire à la maison en compagnie de sa mère. Au fil de nombreux entretiens qu'il a donnés à la presse, Ennio Morricone évoquait l'importance qu'il accordait à la religion. Pourtant, l'homme doutait. Aujourd'hui, je me considère comme un croyant non pratiquant et, à vrai dire, la définition de croyant mériterait quelques éclaircissements. Je crois en l'existence de quelque chose que nos seuls sens ne peuvent percevoir et, en même temps, j'ai beaucoup de doutes sur la vie après la mort, sur cette idée d'un au-delà, déclarera-t-il plus tard. Il était un point, en revanche, sur lequel Ennio Morricone marquait un très net désaccord avec l'Église catholique, Vatican II. Celui-ci supprimait des rituels, l'emploi du latin et surtout le recours aux chants grégoriens. Pour le maestro, ces chants formaient l'origine d'une grande partie de la musique du monde occidental et il revendiquait leur pleine influence sur ses propres compositions. Il appréciait plus que tout l'usage de pauses à bon escient. Il alla jusqu'à déplorer la suppression du latin qu'il considérait comme la langue de l'Église. La petite enfance d'Ennio Morricone se déroula ainsi. Entre une mère aimante, un père plus strict et 3 sœurs vigilantes, un œil toujours sur lui. Il venait de souffler sur ses 11 bougies placées sur le gâteau que sa mère et ses sœurs avaient préparé. La guerre menaçait d'éclater. Ses parents ne lui cachaient pas leur inquiétude. Les temps allaient devenir plus difficiles, d'autant que le père d'Ennio lui réservait une surprise qui allait changer sa vie en lui donnant un tournant auquel un enfant n'est pas forcément préparé. Le texte du présent podcast provient d'une biographie publiée aux éditions Marie B et intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, signée Philippe Grégoire avec la participation d'Olivier Keravel. Nous remercions d'ailleurs l'autorisation de son éditeur Cyril Vachon pour le présent podcast. Les principales citations proviennent d'un documentaire diffusé sur Arte en 1995, ainsi que d'un livre d'entretien accordé par le maestro à Alessandro De Rosa, publié aux éditions Séguier en 1998, si je ne me trompe pas, et intitulé Ennio Morricone, ma musique, ma vie. Outre quelques virgules musicales, vous avez pu entendre deux courtes citations tirées de deux morceaux composés par le maestro Morricone et tous deux enregistrés en 2016 avec le Chess National Symphony Orchestra. Il s'agit de Falses et de Croce d'Amore. Nous espérons que vous avez passé en notre compagnie un excellent moment. Un nouveau podcast concernant Morricone sera mise en ligne très prochainement et traitera de sa période de formation qui donne pas mal de clés sur l'homme qu'il est ensuite devenu. Pour vous tenir informé de la mise en ligne de ce nouvel épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner à la plateforme que vous utilisez. Ce fera un plaisir de vous informer de la mise en ligne de ce nouvel épisode. À très bientôt donc et merci encore une fois.